Michael Sacombi. Bonjour et bienvenue sur Okapi.
Bonjour Narcisse, merci de m'avoir invité.
Très heureux en tout cas de vous recevoir. Dites-nous, comment s'est passée votre intégration en Belgique?
Ben écoutez, pas si difficile, parce que de par la vie professionnelle d'un de mes parents qui a connu une carrière diplomatique, nous étions habitués à l'exigence de rotation et donc de nomadisation de cette profession. Et j'avais certaines attaches à Bruxelles et je me considère un peu comme un afropolitain. Comme dirait Achille Mbembe, donc c'est une personne qui a une culture hybride entre les racines africaines et du pays, donc du Congo, et mondiale avec la diaspora. Et n'oublions pas aussi qu'il y a, au vu des relations entre le Congo et la Belgique, des relations historiques, nous avons toujours un membre de famille ou un ami qui vit et nous encadre dans cette nouvelle vie où on doit, comme qui dirait, tailler son chemin dans l'Europe.
Et durant vos études, vous avez pu effectuer en 2005 un stage de 3 mois au sein de l'ambassade de la RDC à Bruxelles, dans le service presse et communication. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé au juste.
Mais voilà, dans le cadre de mes études de communication, il était question chaque année d'effectuer un stage dans une entreprise. Après un premier stage à la rédaction du journal télévisé, journal parlé de la radio-télévision belge francophone, donc l'RTBF,
oui.
Ben, je décidais contre toute attente et je disais la version de certains de mes proches qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'ambassade du Congo ?» Je me disais « Écoutez, je vis en Belgique et j'ai l'occasion de faire un stage, pourquoi ne pas le faire dans le cadre de notre ambassade ?» Présenté comme un lieu perdu, un trou noir. Alors j'irai à l'ambassade, me présenter. Et l'ambassadeur d'époque était l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui est actuellement le promoteur de la radio-télévision Biwan, qui était étonné de recevoir un stagiaire de CMU, parce que c'est vrai que l'ambassade avait perdu un peu de son lustre. Mais arrivé là, j'ai pu y travailler, j'ai compris qu'il fallait se mettre au service de sa nation, et tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Je peux avouer qu'aujourd'hui, les choses se sont normalisées.
Il faut dire que la communauté congolaise en Belgique a connu des moments difficiles hein, à l'issue des élections générales de 2011 en RDC, avec des événements qui avaient notamment fortement dégradé son image en Belgique. Qu'en est-il aujourd'hui?
Dire que le ciel est bleu dans la communauté congolaise serait prétentieux, mais dire qu'il est ombrageux serait tout aussi étonné. C'est vrai que des moments difficiles ont suivi les élections de 2011 avec les émeutes qu'on peut dire à Matongé, qui ont fortement dégradé l'image de notre communauté. Jamais on n'avait vu de ce genre de manifestation. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine accalmie et nous fréquentons quotidiennement la communauté congolaise qui bénéficie des divers services consulaires à l'ambassade. Et dernièrement, nous avons même organisé la journée internationale de la femme à l'ambassade où il y a eu plus de 500 personnes.
Oui.
Je peux dire qu'il y a une certaine accalmie et ça se passe plutôt bien pour le moment.
Et pensez-vous que la diaspora a un rôle important à jouer pour l'émergence du Congo?
Je pense que la diaspora est ce que j'appellerais une des pierres angulaires du développement du Congo. La diaspora a un rôle éminemment à jouer. Regardez simplement les chiffres. Nous, 6 millions d'habitants, c'est quasi joue à égalité, presque avec Kinshasa. Et regardez les transferts de la diaspora vers le pays qui sont évalués à près d'un ou deux milliards de dollars. Ça concurrence avec les investissements directs étrangers, avec l'aide multilatérale ou bilatérale. C'est donc un poids représentatif assez important. Mais malheureusement, il y a, je dirais, un nuage ombrageux entre la diaspora congolaise, les gouvernants congolais et la population congolaise. J'appelle donc à une période de détente, un peu en rappel à la triste période de guerre froide, qui permettrait l'établissement d'une discussion franche pour qu'une relation de communication vraie entre gouvernants et gouvernés se mettent en place pour qu'il y ait des mécanismes acceptables en vue de la résolution des conflits et qu'il soit possible d'entreprendre une action collective de développement sans être obligé de recourir notamment pour les uns à la violence et pour les autres à la force. Donc je voudrais rappeler aussi le cahier des charges des qu'on a mis en place, qu'on a transmis disons lors des concertations nationales. C'était la création d'un ministère des Congolais de l'étranger, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, le droit de vote, et aussi les questions relatives à la représentativité de la diaspora dans la vie politique nationale. Parce que vous avez vu que les Congolais sont très politisés ici, à l'extérieur. Il faut donc capter cette ferveur politique en créant, pourquoi pas, des assemblées des Congolais de l'étranger, qui seraient, comme les Français le font actuellement, des conseillers consulaires qui s'occuperaient de la communauté, notamment en encadrant les jeunes en parlant de culture, en parlant de la diffusion de l'information congolaise, et aussi dans la formation, ce serait donner un rôle à cette diaspora. Et puis, pourquoi pas dans un second temps, que ces Congolais de l'étranger, cette assemblée des Congolais de l'étranger pourrait élire au second degré des sénateurs congolais de l'étranger. Et puis, pourquoi pas avoir des circonscriptions carrément de la diaspora qui permettraient d'avoir au suffrage universel direct des députés congolais issus de la diaspora. Ce ne serait que justice. Car comme vous connaissez le principe d'anglais, no taxation without representation, il faut que cette diaspora qui apporte en termes intellectuels, en termes financiers, puisse avoir une représentation. Et je pense qu'il est de bon aloi que le gouvernement s'en saisisse. On attend impatiemment ce gouvernement de cohésion nationale, et je pense que cela ira dans ce sens.
Pour finir, Michael Sakombi, vous avez lancé récemment une gazette, la Gazette de la Diaspora. Pourquoi seulement après les concertations, encore à l'issue des concertations nationales qui se sont tenues dernièrement à Kinshasa?
Ben écoutez, on arrivait dans la salle au Palais du Peuple. On disait diaspora, c'était déjà des colibés, on nous appelait diassa, diaspori, combattants, ceci, cela. Donc, on était tous les jours un peu conspués, regardés du coin de l'œil. Bien sûr, c'était d'une façon humoristique, mais bon, dans le fond, on savait bien que notre image n'était pas la meilleure. Alors, on a compris qu'il y avait toujours ce gap communicationnel. On n'arrivait pas à discuter de manière claire entre les gouvernants, entre une certaine classe sociale et politique et nous. Alors, on s'est dit, écoutez, il faut créer un média, au moins apporter notre pierre à l'édifice, en permettant qu'il y ait une dialectique positive, que la diaspora s'exprime dans les colonnes d'un média, pour qu'on montre qu'il y a des choses positives, et que de l'autre côté, bien sûr, qu'on montre aussi qu'à Kinshasa et partout dans le pays, nous arrivons à petit à petit à sortir de la grande nuit d'agression, la grande nuit des années perdues. Donc mettre ces énergies ensemble, et que cela soit montré dans un magazine, que cela soit montré dans un média, c'est quelque chose que je pense pourrait aider à dissiper ce nuage ombrageux et permettre aux uns et aux autres de se réconcilier.
En tout cas, Michael Sakombi, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation en tant que Congolais de la diaspora. Nous vous souhaitons bonne chance, notamment pour votre gazette de la diaspora.
Absolument, merci beaucoup Narcisse. Je terminerai avec cette phrase de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.